Bonsoir. Bonsoir, Michel Champenois, regard sur l'architecture. La Biennale de l'architecture et du paysage, BAP avec un point d'exclamation, qu'on peut voir sur les affiches. Organisée à Versailles du 4 mai au 13 juillet, est l'événement qui nous réunit ce soir. Alexandre Chemetov, bonsoir Alexandre Chemetov. Vous êtes l'organisateur de ce qui, dans cette manifestation nouvelle et ambitieuse, relève du paysage, des paysagistes et même des premiers d'entre eux, les paysans. Nous allons parler spécialement de votre domaine, l'architecture ce sera pour un autre jour. Votre domaine, c'est-à-dire le paysage voulu par l'homme pour son plaisir ou créé par l'homme par les activités nourricières qu'il y déploie ou qu'il y a déployées au cours des siècles, selon les urgences vitales qui peuvent être successives et contradictoires. Pour résumer, on a voulu nourrir les corps, on s'aperçoit depuis peu qu'il faudrait aussi nourrir les âmes, rassurer les vivants d'aujourd'hui à propos de leur avenir sur Terre à plus ou moins brève échéance. Et bien sûr les inciter à ne pas gaspiller, ni les paysages au sens large, leur beauté, leur valeur, leur diversité, à ne pas gaspiller non plus le bonheur de vivre dans le paysage, qu'il soit urbain, minéral, végétal ou partagé entre les deux univers. Et sans oublier de soigner les limites, les lisières, les transitions, dont vous êtes un des spécialistes. Cher Alexandre, je me souviens de votre travail au Havre, sur le bord de mer, des planches et des végétations particulières. Je me souviens des bambous que vous avez établis, on peut dire établis, parce qu'un bambou, ça ne s'enlève plus une fois qu'il est là, dans le jardin de la Villette. Ça, c'était des premières armes, mais vous avez depuis mené des grands projets dont nous parlerons tout à l'heure. Mais tout d'abord, parlons de Versailles, puisque ça se déroule en ce moment et que jusqu'au 13 juillet, on peut en profiter. Donc, en quoi votre initiative va-t-elle servir le paysage? Vous dites que c'est une récréation et une parenthèse.
Oui, mais c'est... Il se trouve que l'école de paysage a été créée par un décret du général de Gaulle le 5 décembre 1945, à une époque où peut-être l'idée que cette école pouvait participer à la reconstruction du pays a germé dans l'esprit d'un certain nombre de gens, en particulier du premier d'entre eux. Et je suis relativement attaché à l'idée que cette école se soit installée dans l'école d'horticulture ou avec l'école d'horticulture au potager du roi. Et ce qui est intéressant avec le potager du roi, c'est que c'est un jardin productif. Donc c'est un jardin qui a été créé...
Alors parlez-nous de monsieur...
De la Quintini.
Et de Michel-Antoine Tambonneau.
Ah oui, parce que...
L'histoire est formidable.
Oui, parce qu'en fait, Jean-Baptiste de la Quintini était avocat. Et Jean Tambonneau, la charge qui était président de la Cour des comptes, l'a chargé de l'éducation de son fils, en se disant que pour le mettre dans le droit chemin, et ça serait bien de le confier à Jean-Baptiste de la Quintini. Et Jean-Baptiste de la Quintini a l'idée
de
l'initier.
C'était de la mauvaise herbe,
voilà. Oui, l'idée de l'initier au jardin. Ils ont voyagé et ils ont fait composer un jardin rue de l'université dans le domaine de le jardin que possédait alors Jean Tambonneau. Et en initiant son jeune élève à l'art du jardin, il est devenu lui-même jardinier et il a créé le potager du roi à Versailles.
Formidable.
Qui est un endroit dans lequel on cultivait des fruits et des légumes pour la cour et donc dans une agriculture de proximité.
Ce sont les premiers locavores,
voilà.
Donc comme on dit aujourd'hui.
Oui, ouais. Oui, mais c'est en ça que ce jardin, et qu'il y a une destinée commune entre le paysage et ce jardin productif. Et que effectivement, les gardiens du paysage et ceux qui nous nourrissent, même s'ils sont devenus minoritaires dans la population active française et des autres pays, sont les paysans. Donc ils représentent 4% de la population active, mais néanmoins, ils sont indispensables parce que leur activité est une activité nourricière. Et c'est ce qu'on a voulu rappeler en dressant le portrait avec Arnaud Dubois-Frenet, qui... et Antoine Deroux. Donc on a dressé le portrait de 25 paysans producteurs de l'Île-de-France.
L'Île-de-France. Et par exemple, de celui qui cultive les légumes anciens selon leur origine, le fameux...
Il s'appelle,
j'ai son nom quelque
part. Il s'appelle Berrurier.
Berrurier, voilà. Comme Berrurier.
Et donc, il cultive...
L'asperge d'Argenteuil.
Oui, le chou... ou de Montmagny, ou le chou de Pontoise, le pissenlit de Montmagny, etc. Et donc, c'est ce qui est passionnant, c'est de voir comment tous ces paysans producteurs produisent donc des fruits et légumes, s'occupent d'expérimentation, c'est-à-dire imaginent comment essayer de nouvelles cultures ou s'essayer à de nouvelles cultures, s'adapte au changement de climat, s'occupe du paysage de leur propre exploitation, mais aussi du paysage alentour, et puis s'occupe de transmission, c'est-à-dire à la fois de transmission de savoir et puis de transmission dans le sens où la question de la transmission de leur domaine, de leur terre, etc., est bien au centre de leur préoccupation. C'est-à-dire qu'on voit bien que comment se transmet la terre et comment, n'étant pas soi-même fils de paysan, on peut s'occuper d'agriculture aujourd'hui. Et donc cette activité, on a voulu, puisque l'école du paysage dépend du ministère de l'Agriculture, il nous a paru tout à fait intéressant de faire que cette manifestation donne la parole aux paysans. Et dans l'école du paysage, qu'on se rappelle que l'activité productrice fabrique des paysages et que les beaux paysages sont aussi de bons paysages. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre le goût, c'est pour ça que nous avons appelé cette manifestation le goût du paysage, entre le goût du vin, du pain, des aliments, du blé, et la manière dont ils sont cultivés, le soin qu'on apporte aux cultures. Et d'une manière générale, la question qui est posée, c'est comment peut-on nourrir une population croissante avec une agriculture saine ? Et deux questions qui passaient, il y a encore peu de temps, pour un manque de conversation, c'est-à-dire quel temps fera-t-il demain et que mangera-t-on ce soir ? Sont devenues deux questions qui changent la destinée de la planète.
Des questions tragiques qui inquiètent nos enfants et petits-enfants, qui les jettent dans la rue pour faire des manifestations, ce qui est quand même assez loin de ce qu'on réclamait en mai 68, n'est-ce pas, Alexandre ?
Oui, mais pas si loin que ça, parce que je pense que cette idée que, au fond, il fallait repenser la manière dont on pouvait conduire son existence, n'a pas changé, s'est déplacé. Et je pense qu'on parlait hier avec Marc Dufumier, qui est un agronome, et avec Catherine Darrow, qui est une spécialiste de l'alimentation. Et il soulignait, en fait, il donnait un message d'espoir en disant que l'énergie solaire qui permet de cultiver des plantes est abondante, que les terres sont encore abondantes, que si on arrête de les maltraiter avec des engrais et des produits chimiques, on peut cultiver durablement une agriculture équilibrée et un élevage équilibré aussi. Oui. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de penser que ces questions sont quand même au centre de la destinée de nos villes et de nos campagnes, et que, pour une fois, on a dressé dans l'exposition qui est dans le pavillon des Suisses qu'on a transformé à cette occasion, pour l'ouvrir sur le jardin, donc c'est un lieu d'enseignement et en même temps un lieu d'exposition, on a dressé avec l'IAU une carte de l'Île-de-France dans laquelle, pour une fois, on voit les villes à l'horizon des campagnes, c'est-à-dire que la campagne est représentée avec les haies, les champs, les prés, l'ensemble de la structure du paysage. Et quand on compare cette carte à la représentation des cartes IGN où on voit la campagne en blanc, pour une fois, la campagne
vous
n'apparaît pas comme
couleurs.
Un vide, mais apparaît comme un paysage avec ses vallonnements, ses caractères, et c'est ça qu'on essaie de ne pas oublier. En tout cas.
C'est ce que vous appelez regarder la ville depuis la campagne. Voilà. On va y revenir. Je voudrais simplement faire un petit rappel pour les gens qui n'ont pas eu la chance jusqu'à présent de voir le potager du roi, qui est réhabilité et visitable depuis déjà pas mal d'années, même si ça reste un lieu un peu mystérieux. Il est placé vraiment très près du château. Oui. Il est très près aussi de l'orangerie, qui était une autre façon de se fournir en choses, en fruits exotiques, etc. Et on y a fait des expériences. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Alexandre Chemetov. Il y a eu des innovations de culture qui se sont faites là. La manière de conduire les arbres fruitiers en espalier, la manière de faire à une échelle importante, puisqu'il s'agit du château de Versailles, un certain nombre de murs pour protéger du vent. Et le grand carré est un lieu propice à la culture. Et donc, toutes ces qualités ont déjà été remises en avant depuis pas mal de temps, mais un peu au titre de l'amusement parce qu'on y va le dimanche et qu'on peut acheter quelques fruits, ou bien parce que c'est un lieu historique et qu'on le visite en tant que tel. Vous avez réhabilité aussi, enfin l'école du paysage est toute voisine, vous avez réhabilité des lieux, ce que vous disiez, le long de la pièce d'eau des Suisses, et vous créez un parcours complet, de même que vous créez le dimanche en particulier, une journée complète, c'est-à-dire il y a des films le matin, il y a une buvette à midi, il y a un marché, il y a de la cuisine par des gens qui savent la faire, et ensuite une conférence à 17h30 à laquelle vous faisiez allusion à l'instant, la dernière étant celle qui a mis en face à face Marc Dufumier et votre conférencière. Voilà. Et donc il y a un programme jusqu'au 13 juillet, on y reviendra tout à l'heure, on donnera quelques exemples.
Et l'après-midi,
les dimanches ne se ressemblent pas.
Non, et l'après-midi, il y a aussi, organisé par Gide Bertzai, une conférence pour les enfants. Donc, avec des gens très sérieux qui viennent parler aux enfants de sujets tout à fait passionnants. Il y aura prochainement, le 23 juin, Bertrand Lavier, artiste, qui viendra raconter, il a choisi comme titre de sa leçon le paysage à fleurs. Donc il nous racontera comment il est devenu un artiste en suivant des cours dans cette école de paysage et l'école d'horticulture.
Et pourtant, il fait un art qui n'est pas très naturel. C'est l'homme qui empile les frigos.
Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est aussi une observation une façon de regarder
notre
milieu monde, notre milieu, aussi de déplacer comme ça le sens des objets, de pratiquer des greffes, des rapprochements, effectivement, des cadrages. Je pense qu'il nous parlera de tout ça. Et puis, le 30 juin, Valérie Masson-Delmotte viendra raconter comment le climat va changer et quel climat lèguera-t-on à nos enfants et à nos petits-enfants. Et le 7 juillet, Marc-André Sellos, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, nous parlera de la façon dont les plantes communiquent entre elles et communiquent avec les autres êtres vivants.
Elles alertent leurs voisines d'un danger imminent.
Les conférences pour les enfants. Et puis le matin, programmé par Ariane Doublet, il y a des films.
Ah oui, alors j'ai noté un film de Luc Moulet,
samedi prochain, le 16 juin. Qui viendra dimanche prochain. Dimanche prochain, présenter un film qui s'appelle Genèse d'un repas, qu'il a tourné en 1978. Et qui est intéressant parce qu'il montre comment, en mangeant du thon, des bananes et des œufs, en réalité, on est renvoyé à l'ensemble des problèmes et des conflits qui agitent la planète. Et puis le 23 juin, Dominique Marchais viendra présenter Le Temps des Grâces, qui est un film consacré à la campagne. Il a réalisé récemment un film qui s'appelle « Nul homme n'est une île » et le travail de Dominique Marchais est consacré à l'agriculture. Et puis, le 30 juin, le Jardin en marche de Benoît Sica, le plein pays d'Antoine Boutet. Et puis, le 7 juillet, les Terriens d'Ariane Doublet, qui est une description des paysans du Pays de Caux assistant à l'éclipse, qui est une description de la campagne du Pays de Caux et puis de la manière
du rapport à la terre.
Du rapport à la terre, alors dans lequel il y a des dialogues tout à fait savoureux. Et enfin, le samedi 13 juillet, Résistance naturelle de Jonathan Nociter, puisqu'on aura une conversation avec les producteurs de vin naturel qui viendront de la France entière parler de la manière dont ils s'occupent effectivement de retrouver le goût du paysage dans la façon dont ils cultivent eux-mêmes les vignes et qu'ils retrouvent justement dans la manière de cultiver le vin le goût de la terre et des différents terroirs.
Alors, je rappelle, Alexandre Chimentov, que vous avez nommé cette manifestation le goût du paysage, c'est-à-dire le goût d'une certaine beauté, le goût de la, c'est-à-dire la saveur, et que le programme extrêmement riche que vous avez établi, dont vous venez de nous donner quelques éléments, est extrêmement varié et va, en effet, du vin à l'agriculture, du paysage urbain à la pratique individuelle, maintenant familiale, puisque tout le monde essaye de mettre des radis sur son balcon, même à Paris, sur les toits du BHV. Alors, est-ce que, pour poser deux questions un peu moins idylliques et un peu moins paradisiaques que cette recherche que vous proposez, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a aussi une grande partie de la paysannerie qui est culpabilisée et hostile à ce qu'on lui demande, sous prétexte qu'elle a nourri les gens comme elle pouvait ? Et que maintenant, on lui dit qu'elle les empoisonne.
Oui, mais je crois que ce qui est essentiel, c'est que le dialogue entre les rats des villes et les rats des champs soit rétabli. C'est-à-dire qu'il a été coupé, et cette coupure est dramatique. Et effectivement, il faut que ce dialogue se construise. Rémi Janin, qui est un paysagiste qui a été formé à l'école de Blois, est venu dans une conférence précédente parler avec Jean-Christophe Bailly. Il raconte comment, retournant dans la ferme de ses parents à côté de Roanne, il a transformé la ferme qui est une ferme d'élevage, pour que ses voisins, qui sont des urbains, puissent parcourir les pâtures, venir à la ferme, assister à des spectacles, échanger, et donc faire que aussi le monde de l'agriculture s'ouvre vers la ville. On voit que vous citiez l'exemple de Laurent Berrurier, qui viendra dimanche prochain avec Jean-Baptiste Laverne-Razzani parler de la manière dont, au lieu de produire finalement de la fourche à la fourchette, on peut aussi produire de la fourchette à la fourche, c'est-à-dire changer la perspective qui lie l'agriculture aux consommateurs qui sont pour la plupart d'entre eux dans les villes et faire en sorte que ce goût, au fond, pour les bons fruits et légumes, les viandes, les vins, le pain, etc., cette saveur qui est tout à fait essentielle et qui nous nourrit, qu'on comprenne d'où elle vient finalement et quel type de paysage elle fabrique et quel lien ça crée, c'est-à-dire entre la ville et la campagne, et qu'on arrête de gaspiller les meilleures terres à blé
on va en parler
monde
tout à l'heure, on va parler des deux grands dossiers. Pour rester dans les bonnes nouvelles, sans faire Marie-Antoinette, puisqu'on est à Versailles, sans jouer à la bergère, vous m'avez cité l'autre jour, quand nous parlions, l'exemple de Valentine de Ganay. Valentine de Ganay est une femme excellente qui a beaucoup œuvré pour l'art contemporain, entre autres, qui a rénové, enfin restauré les jardins du château de Courance, qui est un parc classique au sud de Paris, près de la forêt de Fontainebleau, et qui, m'avez-vous dit, a aussi des terres dans sa famille, une grande surface de terres, 500 hectares, et qu'elle les a convertis, enfin, ou en tout cas, c'est en voie, parce qu'il faut un certain temps pour convertir des terres abîmée par l'agriculture intensive. Il faut pas mal d'années. Je crois qu'on demande 10 ans aux gens qui veulent se déclarer bio.
Oui. Enfin, c'est 3 ans au minimum. Mais ce qu'a fait Valentine de Ganay, c'est qu'elle a suivi des cours d'agriculture pour reprendre le fermage de ses terres et passer à une transition sur 500 hectares du domaine familial qui s'étend entre Courance et Fleury-en-Bière en agriculture biologique de conservation. Et donc, elle cherchait un chef de culture pour transformer ce domaine puisque sa famille avait mis comme condition qu'elle ne s'endette pas et qu'elle... et qu'elle mène raisonnablement cette transition et qu'elle continue à produire, mais tout le monde était intéressé par le fait qu'elle puisse produire plus sainement. Et donc elle cherchait un chef de culture et elle a donné l'annonce, puisqu'elle cherchait cette personne, à son professeur à l'école, et lui-même s'est déclaré intéressé.
Ah,
donc il s'appelle Bruno. Voilà, il s'appelle Bruno Saillet et il est venu... faire ce travail de transition, finalement, d'une agriculture traditionnelle très, très consommatrice en produits de synthèse et en labour, etc. Et ils sont passés à une agriculture biologique de conservation, en cessant les labours, en faisant passer des moutons qui broutent le trèfle avant que le blé ou
en faisant l'assolement triennal, qu'on apprenait à l'école.
En faisant des assolements, en choisissant des semences, en produisant des fruits et des légumes, d'ailleurs, qu'on peut consommer en venant déjeuner à
Courance, où il y a un très bon restaurant.
Courance,
et
à
beau
Versailles,
jardin.
Au potager du roi, puisque les cuisiniers qui viennent le dimanche, sous la conduite de Romain Alina, accommode les fruits et légumes de venant du jardin de Courance.
D'accord,
et
qui
du
est dans l'Essonne pour
roi.
Ceux qui
voilà.
le cherchent. Voilà. J'ai pas le site internet, mais c'est Courance dans l'Essonne.
Voilà. Les jardins de Courance.
Donc vous réunissez les avant-gardes, disons, d'une nouvelle transition du paysage et de l'agriculture. Ce qu'on constate pour l'instant, c'est qu'il y a encore des résistances très fortes du côté de l'aménagement brutal. Par exemple, si on prend, pour rester dans les Yvelines, au-delà de Saint-Germain-en-Laye, en allant vers Mantes, des terres agricoles qui étaient des terres à fruits, enfin, qui avaient été travaillées pendant des années pour être des vergers, qui sont progressivement grignotées pour des centres commerciaux, etc. Et bientôt pour le PSG qui, étant à l'étroit dans un endroit, se met le long de la route, donc dans ces terres agricoles. Il y a eu pas mal de plans, de grands plans généraux pour l'Île-de-France qui montraient qu'on devait conserver tel et tel endroit. Enfin, il y a maintenant des directives qui sont données dans les plans d'urbanisme, mais elles ont l'air relativement circonscrites, enfin un peu gênées aux entournures. Et il y a en région parisienne un grand débat autour de la façon dont on projette de transformer le triangle de Gonesse, connu sous ce nom parce qu'il est assez bien délimité, cultivé en terre agricole depuis longtemps, et promis à un aménagement qui s'appelle Europa City, qui serait un parc de loisirs et de commerce d'ailleurs, et qui jusqu'à présent, je ne sais pas où ça en est, vous le savez peut-être, a été contesté par des associations, enfin ce projet, mais pour l'instant, on n'y a pas renoncé. Or là, on est à 10 km de Paris.
Oui, mais alors c'est, si vous voulez, ce qui est intéressant avec l'exemple du triangle de Gonesse, c'est que c'est les meilleures terres à blé de l'Île-de-France et peut-être les meilleures terres à blé du monde.
Du monde.
Ont une histoire très ancienne, puisque... qui date de plusieurs millénaires. On a commencé à cultiver ces terres il y a 2500 ou 3000 ans. Donc on est dans une culture très ancienne. Tout le monde s'est ému, à juste titre, de la sauvegarde de Notre-Dame de Paris. Mais d'une certaine façon, les terres cultivées de l'Île-de-France sont un autre patrimoine commun de notre humanité. Et cette Notre-Dame des Champs ou cette Notre-Dame des Prés doit être préservée. Et s'y emploient Alice Leroy et Robert Lévesque, qui sont venus à Versailles, raconter pourquoi il ne faut pas construire le triangle de Gonesse et pourquoi il faut le cultiver. et sans doute diversifier les modes de production. Et il y a tout un projet qui s'appelle Karma, qui est tout à fait sérieux et qui est un projet alternatif à la construction de ce centre commercial inutile. Et c'est ce projet qui doit voir le jour maintenant. Parce que ce qui est intéressant, finalement, avec notre position autour du goût du paysage, au fond, c'est que c'est un point de vue optimiste sur la manière de
cultiver la terre. Oui, c'est un point de vue actif.
Voilà, c'est pas du tout un point de vue nostalgique sur un monde disparu, mais au contraire, un point de vue optimiste sur un monde qui vient, c'est-à-dire cette agriculture qui n'est pas seulement... on a pu croire à tort que l'avenir de l'agriculture urbaine, c'était de cultiver le toit des immeubles ou les façades végétalisées, etc. C'est absolument pas la question. Mmh. La question, c'est la question du sol. Et la valeur, c'est la valeur du sol. Et donc, il faut effectivement non seulement préserver ces sols, mais apprendre à les cultiver, à en prendre soin, pour qu'on puisse effectivement nourrir demain, aujourd'hui, 7 milliards et demi d'habitants, demain 9 ou 10 milliards. Parce que la question, c'est qu'il faut adapter l'agriculture pour qu'elle puisse nourrir le monde et le nourrir sainement et le nourrir durablement. Donc, ce qu'on peut développer autour de Paris, dans l'Île-de-France, autour des villes, dans les campagnes, ici et là, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et alors, toute la discussion, toutes les conversations qui ont lieu autour de notre exposition à Versailles construisent petit à petit une sorte de destinée, finalement, qui lie les villes et les campagnes. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est-à-dire qu'on comprend mieux pourquoi il faut construire les villes sur elles-mêmes et réinvestir et des sites industriels, transformer des bâtiments qui existent, changer des usages, transformer la ville d'une manière attentive et préserver les terres cultivées pour pouvoir leur donner une nouvelle destinée et une nouvelle relation avec les villes, parce que il faut absolument savoir et se souvenir que ce sont les campagnes qui nourrissent les villes et que la fresque de Sienne, du palais public de Sienne, qui lie le bon gouvernement des villes à celui des campagnes, n'a rien perdu de son actualité. On l'a cru désuète à un moment donné où, au lendemain de la dernière guerre, on a pensé qu'on pouvait entreprendre une agriculture industrielle. C'est une pure folie. L'agriculture ne sera jamais industrielle. Il faut qu'elle retrouve simplement ses équilibres, comme la ville doit réapprendre, après les excès et les dérives du moment moderne, à se reconstruire sur elle-même.
On va parler, après une petite intermède musicale que je vous offre avec Verlaine et Debussy. Votre âme est un paysage choisi. Le poème Clair de lune, votre âme est un paysage choisi, que vont charmants masques et bergamasques. Et dans la suite bergamasque de Debussy, natif des Yvelines et de l'autre ville royale, Saint-Germain-en-Laye, il y a ce passage. Je voudrais essayer de parler quand même de vous, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je pense que vous étiez la bonne personne pour aborder à la fois la construction, l'architecture et le paysage de cette manière à la fois complémentaire est mixte en réalité, puisque dans beaucoup de vos travaux en tant qu'architecte, urbaniste et paysagiste, vous aimez ne pas dissocier ces trois fonctions. Vous avez créé en 1983 le Bureau des paysages et vous avez des projets, vous avez réalisé des projets qui vont dans ce sens. Et avant de parler de vous, j'ai noté que vous aviez ménagé un espace d'hommage à Jacques Simon et Michel Corajou, et qui sont des paysagistes français. Je voudrais vous demander si vous pensez qu'il y a une école française du paysage, c'est-à-dire en ce moment, particulièrement, une très bonne génération de paysagistes. On a parlé de Gilles Clément tout à l'heure, Michel Desvignes, et une préoccupation du paysage dans les meilleurs projets.
Oui, je crois qu'il y a... Il y a, par exemple, je travaille en ce moment à Strasbourg, sur les bords du Rhin, enfin, l'espace qui sépare le... une sorte de prolongement de la Neustadt, qui s'étend jusqu'au bord du Rhin. Et c'est Henri Bava et son agence s'appelle l'Agence Terre qui s'occupe de ce grand projet et qui joue un rôle de fédérateur des actions à l'intérieur de ce grand périmètre où la ville de Strasbourg retrouve son lien avec le fleuve ou le fond d'ailleurs. Et moi, dans ce périmètre, je m'occupe de la COP, l'ancien siège de la COP Alsace, qui était justement un lieu consacré à la distribution de nourriture saine dans un périmètre restreint, avec des magasins qui étaient en même temps des institutions, enfin, qui étaient connues dans toute l'Alsace, la COP, la COPE ou le Konsumverein avant, et c'est cet héritage qu'on est en train de transformer. Et ce qui est très intéressant, c'est que partant de l'histoire de ces bâtiments qui viennent au bord du Rhin en 1911 et qui sont transformés au fil du temps, qui se construisent jusque dans les années 60 et 70, il y a là tout un héritage architectural et urbain. Et ce qui est intéressant, c'est de construire le programme et le projet à partir de cet héritage. Par exemple, on s'est dit que dans l'ancienne boulangerie, peut-être ça serait intéressant peut-être qu'un jour on puisse refaire du pain, ou dans l'ancienne salle d'embouteillage faire un restaurant, utiliser un ancien garage pour mettre un collectif d'artistes. Et vous voyez qu'il n'y a pas de rupture finalement entre du paysage.
C'est ce qui me frappe dans votre propos, voilà. C'est que, comme praticien, vous fédérez, c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure, et vous fédérez l'architecture et le paysage, l'espace bâti et l'espace naturel où travailler comme une nature, mais aussi l'histoire. Et la part de l'histoire est extrêmement forte dans vos projets. Par exemple, l'île de Nantes, que vous avez réaménagée sur plus de 300 hectares pendant une dizaine d'années, et où on a créé la fameuse galerie des machines qui est très visitée grâce aux installations de cirque de notre ami
François de la Rosière.
Voilà, François de la Rosière.
Et c'est machine.
C'est absolument magnifique. Et ça garde un caractère industriel. Et c'est pas du tout artificiel, puisque justement, il y a le métal, enfin, des tas de points communs. Enfin, ça, c'est la chose la plus connue. Mais l'ensemble de l'île, vous l'avez travaillé en faisant une sorte de plan progressif, c'est-à-dire un plan guide qui s'adaptait au fur et à mesure de vos idées ou de vos projet pour que les habitants puissent prendre conscience de ce qui arrivait ou de ce qui allait arriver. Donc vous intégrez l'histoire dans votre processus de manière très forte.
Oui, l'histoire géographique, comme aurait dit Julien Gracq, puisqu'il était avec un tiret entre les deux. C'est-à-dire justement cette idée qu'il y a une chose particulière, c'est que la forme d'une ville, pour reprendre cette expression...
Et le titre d'un livre de Julien Gracq.
Est aussi porteuse de cette... recèle finalement des solutions, et c'est en dessinant l'état des lieux, souvent, qu'on a trouvé une façon d'imaginer l'avenir de l'île de Nantes. C'est-à-dire qu'il y avait dans le plan guide, l'expression qu'on avait forgée pour raconter comment on allait transformer l'île, un rapport entre le relevé des lieux et la destinée et leur destinée. C'est-à-dire comme si était contenu dans l'état des lieux même quelque chose qui nous pouvait nous conduire sur le chemin d'un futur possible.
C'est le point commun de la plupart de vos projets, c'est de, quand ils sont urbains, c'est de réutiliser ou de transformer un lieu existant. Par exemple, l'école que vous avez installée dans la Manu, enfin ce qu'on appelait la Manu, l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Étienne, le tripostal de Bordeaux transformé pour une activité extrêmement moderne.
Enfin, en cité numérique, oui.
Sinon moderne, du moins contemporaine. Mmh. Et la manière de travailler sur l'existant, et de le valoriser ou de le magnifier est aussi une des constantes de votre travail. Donc, il me semble que quand vous parliez tout à l'heure de construire la ville sur la ville, formule qu'on doit attribuer à Antoine Grimbach, qui est très heureux de l'avoir vu imprimé dans Le Monde sur 6 colonnes quand il était tout jeune, donc je ne peux pas m'empêcher de le rappeler. Mais cette idée de la ville sur la ville et de ménager des espaces libres autour des villes, enfin, ou de rendre à la campagne son rôle de campagne, est un but et un objectif formidable, mais pour l'instant, on ne le voit pas vraiment.
Non, mais disons que dans cette activité que je développe plutôt dans les villes, il m'a semblé aussi important de parler de la part invisible, au fond, depuis les villes, qui est cette part de la campagne, qui, elle aussi, a une histoire, elle aussi a une géographie, elle aussi a un passé. Et par exemple, dans l'exposition qu'on fait à Versailles en ce moment, on montre des photos de chacun des domaines dont on fait le portrait, prise en 1945 ou 1950, 1975, 2000 et aujourd'hui. Et on voit comment, parfois, des traces du passé peuvent aider à comprendre la façon dont les paysages ont évolué. Un des paysans producteurs qui s'appelle Alain Bosque-Bierne et qui produit une menthe poivrée délicieuse à Milly-la-Forêt, excellente, en voyant les photos, a compris pourquoi une partie de ses terres était difficilement cultivable, était toujours inondée, très humide, etc. En voyant que en 1950, il y avait une peuplerie à cet endroit. Ouais. Et donc, parfois, comme dans la ville, au fond, les traces aident à comprendre comment on peut faire cultiver la campagne et apprendre à remettre en quelque sorte les pas dans les pas. Et là, c'était aussi vrai et ça m'a beaucoup touché que lui-même, venant voir cette exposition, apprenne quelque chose de son propre domaine.
Alors, on ne saurait trop inviter tous ceux qui ont voté vert et ceux qui voteront vert la prochaine fois d'aller à un moment ou à un autre, soit dans la semaine, entre midi et 19h, voir les expositions et le potager du roi et les différents projets, soit le dimanche participer à toutes les manifestations que vous avez organisées, soit pour les enfants, soit pour les gourmands, je crois, 10h du matin à 8h du soir,
oui,
le dimanche, jusqu'au
oui.
13 juillet, qui est un samedi, puisque oui. Le 14 est non seulement un dimanche, mais une fête férié et non travaillé, contrairement au lundi de Pentecôte, qui est férié et pas chômé. Donc ça, c'est Alexandre Chemetov, c'est votre grand travail de diffusion d'une culture, alors au sens large, cette fois, et de rencontre entre des gens qui ont finalement des objectifs différents, mais qu'on peut fédérer, qu'on peut rapprocher. Un travail sur pas mal d'années à venir, mais qui est peut-être encouragé ou accéléré par les situations actuelles et la manière dont on parle aujourd'hui du climat et de l'alimentation, puisqu'il ne se passe pas de jour sans qu'on nous annonce qu'il ne faut pas manger telle chose, et surtout pas de surgelés de légumes mixé. Enfin, il faut acheter des surgelés, mais on peut acheter des surgelés à condition qu'ils soient simples et pas assaisonnés, enfin, etc. Il y a toute une mise en garde générale. Et je voudrais évoquer en fin de cette émission, qui est trop courte pour parler de tout cet avenir, sinon radieux, du moins difficile. Alexandre Chemetov, un de vos amis, Jean-Christophe Bailly, a écrit un livre, enfin parmi beaucoup de livres, un livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Le Dépaysement. Dépaysement, voyage en France, au Seuil, il y a une dizaine d'années, je crois que c'est 2011, ou plus avant, je ne sais plus. Et une des choses dont je me suis souvenue aujourd'hui, sans avoir le temps de chercher la citation exacte, mais qui m'avait frappé à l'époque, c'était l'idée que les paysages, par exemple, de l'Est du Massif central, le Charolais, le Vivarais, qu'il décrivait avec beaucoup de plaisir et beaucoup de gourmandise, on peut dire, il se posait la question à un moment de savoir ce que ça deviendrait le jour où on ne mangerait plus de viande et qu'il n'y aurait pas de bétail dans les champs. Alors, est-ce qu'on fera des vaches est-ce qu'on créera des vaches comme animal domestique et de compagnie? Qu'est-ce qui va se passer?
Je crois qu'il faut maintenir la polyculture et le polyélevage. Parce que si on veut apporter des matières organiques pour fertiliser les champs, il faut qu'il y ait de l'élevage aussi. Donc les vaches sont tout aussi nécessaires que les moutons et les autres animaux.
Et les chats et les chiens.
Simplement, c'est cet équilibre qu'il faut maintenir. Et l'apport de matières organiques est essentiel pour pouvoir cultiver du blé et d'autres céréales, mais aussi des oléagineux. Et donc avoir des cultures variées. Et un élevage aussi diversifié, parce que c'est cet équilibre-là qui fait, au fond, le paysage. Je me suis très attaché, au fond, à cette idée avec Jean-Christophe Bailly, et nous avions... Et cette idée du dépaysement est une façon de parler de l'identité de la France qui me paraît plus actuelle et plus prometteuse, finalement, moins restrictive.
Merci beaucoup, Alexandre Chemetov. Je rappelle que vous êtes l'organisateur de la section paysage, le goût du paysage à Versailles jusqu'au 13 juillet, avec un programme très riche que l'on peut trouver sur Internet, je pense, et qui est surtout le dimanche avec beaucoup de rencontres et les autres jours avec des expositions dans le potager du roi et le pavillon des Suisses le long du plan d'eau, la pièce d'eau des Suisses, c'est-à-dire les gendarmes de l'époque, non?
Non, c'était les gardes. C'était les gardes suisses. C'était les gardes suisses.
Mais c'est pas les gardes suisses.
Je crois.
Il n'y avait pas une caserne, un truc comme ça?
Oui, peut-être.
Sûrement.
Oui.
Merci beaucoup, Alexandre Chemetov. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir.
Merci.
I didn't know what time it was then I met you. Oh, what a lovely time it was, how sublime it was too. I didn't know what day it was you held my hand. Warm like the month of May it was, and I'll say it was grand, grand. To be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I did not know what year it was, life was no prize. I wanted love and there it was, shining out of your eyes. I'm wise and I know what time it is now.